Eroua Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 26 mai 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Billon. Tout d'abord, les titres.
Appel au calme et à la retenue de Ban Ki-moon hier à la veille des manifestations anti-Kabila prévues aujourd'hui en RDC.
Au Burkina Faso, victoire du parti du président Roch Marc Christian Kabore aux élections municipales de dimanche.
Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements armés pro-gouvernementaux suspendent leur participation au sous-comité politico-institutionnel chargé de l'application de l'accord d'Alger.
Sommet du G7 aujourd'hui au Japon, sommet axé sur les défis de la croissance mondiale, du terrorisme et des migrations.
En Israël, Benjamin Netanyahou a conclu hier un accord sur l'entrée dans son gouvernement de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman comme ministre de la Défense.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Bonjour à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé mercredi au calme et à la retenue à la veille de manifestations de l'opposition contre le pouvoir en République démocratique du Congo. Michel Joseph.
L'opposition a appelé à manifester jeudi pour protester contre un arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester en poste au-delà du terme de son mandat en décembre, en attendant l'organisation du scrutin présidentiel. Selon son porte-parole, M. Ban est profondément préoccupé par les informations relatives aux tensions politiques grandissantes liées à l'incertitude qui persiste autour du processus électoral en RDC. Il appelle au strict respect des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution et exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à exprimer leurs opinions pacifiquement, y compris dans le cadre des manifestations prévues ce 26 mai. M. Ban invite aussi les acteurs politiques congolais à s'engager de manière constructive dans un dialogue politique visant à résoudre pacifiquement leurs divergences. Il les exhorte à coopérer avec le facilitateur du dialogue national inclusif de l'Union africaine, M. Edem Kodjo, et réitère le soutien de l'ONU aux efforts de celui-ci.
En République démocratique du Congo même, un appel au respect des biens d'autrui et à la discipline a été lancé par les cadres de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition hier soir. C'était à l'issue d'une réunion avec l'autorité urbaine, séance qui a été élargie à une délégation de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Des précautions ont été prises, des consignes données. Les détails avec Walter Kiu de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À l'issue de cette réunion de dernière heure, des consignes ont été données et des dispositions ont été prises pour éviter tout débordement. Joseph Olengankoy est cadre de la dynamique.
Nous serions encadrés par la MONUSCO et la police nationale. Nous en appelons tous les Congolais de venir avec le drapeau national qui sera le signe de l'unité de la patrie.
Albert Fabrice Pouella, modérateur de la dynamique, en appelle à la discipline de tout un chacun.
Nous avons tenu une séance de travail avec monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à laquelle était associée l'inspection provinciale de la police ainsi qu'une grande délégation de la MONUSCO. La marche est autorisée par l'autorité de la ville. Il nous revient d'attirer votre attention qu'on ne casse rien, qu'on ne provoque personne. C'est une marche patriotique.
Jean-Marie Ingelei Foto revient sur le message qui seront adressés.
L'opposition a décidé d'organiser une marche de colère et de compassion. Ça veut signifier, un, que la constitution de la République soit respecté en inscrivant les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire des élections présidentielles et législatives. Parce que c'est par ces élections-là que nous pourrons assurer l'alternance au sommet de l'État.
Il faut noter que se sont jointes à cette marche les forces du progrès de François Belchika.
Au Burkina Faso, le parti du président Roch Marc Christian Kabore a remporté les élections municipales de dimanche. Selon des résultats provisoires globaux publiés mercredi soir, les résultats définitifs seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contentieux ouverte pour une semaine. Nous y reviendrons en seconde partie avec Zoumana Wonogo.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé hier les dernières sanctions pesant sur le Libéria 13 ans après la fin de la guerre civile dans ce pays. Jacques Aristide.
Le régime de sanctions visait notamment à lutter contre le trafic de ressources naturelles ou geler les avoirs de certains individus. Également, dans l'arsenal, un embargo sur les armes destinées aux acteurs non étatiques et l'obligation pour le gouvernement du Libéria de notifier à l'avance ses achats d'armement. La résolution mettant fin aux ultimes sanctions a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité qui saluent les progrès constants du gouvernement libérien dans la reconstruction du pays, mais l'invite tout de même à adopter rapidement une législation sur les armes et à mieux contrôler ses frontières. Les États-Unis, qui avaient mis au point cette résolution, se sont félicités de la levée des sanctions. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, trouve que cette décision est une preuve supplémentaire des progrès importants accomplis par le Libéria et la sous-région pour maintenir la stabilité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un rapport d'enquête de l'inspecteur général du département d'État, qui devait être publié aujourd'hui, a révélé hier qu'Hillary Clinton et le précédent secrétaire d'État américain n'avaient pas respecté les directives du département sur les risques sécuritaires quand ils utilisaient les comptes e-mail personnels pour des activités officielles. Sous de hauts responsables, l'ODI n'a trouvé aucune preuve que la secrétaire d'État avait demandé ou obtenu des directives ou l'approbation pour mener ses activités officielles professionnelles via un compte e-mail personnel sur son serveur privé.
Les dirigeants des grands pays industrialisés font leur arrivée au Japon de manière dispersée avant un sommet du G7, un sommet centré sur les défis de la croissance mondiale, du terrorisme et des migrations qui débute aujourd'hui jeudi. Maëlys Hegel.
Barack Obama est arrivé mercredi soir. Il fera une visite à Hiroshima après le sommet. Une première pour un président américain dans cette ville bombardée à l'arme atomique par les États-Unis en 1945. Monsieur Obama aura un entretien avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ce dernier a également rencontré mercredi le premier ministre britannique David Cameron, dont le pays suscite les inquiétudes du G7 à l'approche d'un référendum le 23 juin sur une possible sortie de l'Union européenne. La faiblesse de la croissance mondiale occupera une place de choix pendant ce sommet du G7, qui doit également adopter un plan d'action contre le financement du terrorisme. La délégation française a fait ajouter une réunion prévue jeudi sur la préservation du patrimoine culturel face aux agressions terroristes. Après les destructions des trésors de Tombouctou, du musée de Mossoul, des vestiges de la cité de Nimroud et des temples de Palmyre. Enfin, le thème de la migration et des réfugiés a été mis à l'ordre du jour à l'initiative de l'Allemagne.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a conclu hier un accord sur l'entrée dans son gouvernement de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman comme ministre de la Défense. Un changement qui n'est pas du goût des Palestiniens. John Lindon.
Après une semaine de laborieuses discussions, les alliés de Netanyahou et Lieberman se sont entendus pour que ces derniers prennent le poste de ministre de la Défense qui supervise les territoires palestiniens. Ancien ministre des Affaires étrangères âgé de 57 ans, M. Lieberman vient remplacer Moshe Yaalon, considéré comme un adepte de la retenue. Avigdor Lieberman est connu pour ses diatribes anti-arabes. Il s'est employé à dissiper les inquiétudes en disant s'engager pour une politique responsable et raisonnable. Il n'est pas hostile à la création d'un État palestinien, mais défend un échange des territoires qui ferait passer sous administration palestinienne une partie de la minorité arabe d'Israël contre des colonies juives de Cisjordanie. Côté palestinien, Saeb Erekat, numéro 2 de l'OLP, a dit que ce gouvernement représente une vraie menace d'instabilité et d'extrémisme dans la région. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a dénoncé le retour de Lieberman comme une escalade dans le racisme et l'extrémisme.
Merci, John. Eh bien, je vous rappelle deux des principaux titres de cette édition en République démocratique du Congo. Un appel au respect des biens d'autrui et à la discipline a été lancé par les cadres de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition hier soir. C'était à l'issue d'une réunion avec l'autorité urbaine, séance qui a été élargie à une délégation de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé hier au calme et à la retenue à la veille de ces manifestations de l'opposition contre le pouvoir en République démocratique du Congo. Et puis, Et on vous le disait, au Burkina Faso, le parti du président Roch Marc Christian Kabore a remporté les élections municipales de dimanche selon des résultats provisoires globaux publiés mercredi soir. Les résultats définitifs seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contentieux ouverte pour une semaine.
Et maintenant, place à la minute économique, l'actualité économique sur le continent avec John Lyndon.
Au Cameroun, les travaux d'aménagement de la plage d'Ngoye à Kribi d'un coût total de 4 milliards de francs CFA ont débuté. C'est l'entreprise chinoise Tianyuan Construction Group qui est chargée de l'exécution de la première phase sur une durée d'environ 8 mois et demi et qui coûtera 2 milliards 667 millions de francs CFA. D'après le secrétaire général de la communauté urbaine de Kribi, Jacob Medjo Asako, la plage moderne de Ngoye à Kribi fonctionnera 24 heures sur 24 et offrira plusieurs emplois aux jeunes. Total Sénégal présente un résultat net 2015 en baisse de 19,3% à 3,9 milliards de francs CFA. Son chiffre d'affaires, lui, baisse de 16% et s'établit à 357 milliards de francs CFA. 750 millions de dollars, c'est la somme que vient de lever Afrimbank. L'institution financière a émis une obligation après avoir reçu des ordres d'achat d'une valeur cumulée de 3,4 milliards de dollars de la part de 290 investisseurs, rapporte Jeune Afrique. Il s'agit d'une obligation d'une maturité de 5 ans, rémunérée au taux de 4%. Au Nigeria, United Capital, une société leader des services bancaires d'investissement, vient de signer un accord pour collecter près de 50 milliards de naira en garantie bancaire pour les entreprises de production d'électricité.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Un sélectionneur intérimaire en Guinée, mais plus d'amical face au Ghana.
Oui, Lapé Bangoura, par ailleurs chargé de l'équipe nationale A', a été nommé sélectionneur intérimaire du Sili National. Après le départ, vous le savez, de Luis Fernandez, l'amical face au Ghana prévu samedi à Amiens a en revanche été annulé. Déjà passé sur le banc de la sélection A en 2009, celui qui est aussi le sélectionneur des joueurs locaux et avait dirigé avec brio l'équipe lors du CHAN 2016 conservera le staff en place. Je vous rappelle que le Sili National est à 3 points du Zimbabwe en tête de son groupe des éliminatoires de la CAN 2017. La Guinée qui affrontera le Swaziland le 5 juin prochain lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires.
Finale de la Ligue des Champions, de bonnes nouvelles pour Cristiano Ronaldo.
Victime avant-hier d'un coup à la cuisse gauche, le Portugais s'est entraîné hier avec le reste du groupe du Real Madrid. CR7 qui devrait pouvoir tenir sa place samedi en finale de la Ligue des Champions. Ronaldo est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec 16 buts et meilleur buteur de toute l'histoire de la compétition, 94 buts. Ronaldo a l'opportunité ce samedi d'égaler son propre record de buts inscrits sur une même édition, soit 17 buts. Le Real Madrid qui pourra battre un autre record samedi à San Siro, le stade de Milan, puisque le Real de Madrid pourrait remporter sa 11e Ligue des Champions.
Roland Garros, le tenant du titre, se qualifie encore laborieusement.
Stan Wawrinka, tête de série numéro 3, a bataillé pour écarter le japonais Taro Daniel, 93e joueur mondial, en 3-7, 7-6, 6-3, 6-4. Wawrinka accède au troisième tour de Roland Garros. Et puis Idrissa, on va parler de NBA, le championnat de basket nord-américain. Les playoffs se poursuivent. On parle à présent de la finale de la conférence Est.
Les Cleveland Cavaliers ont repris l'ascendant dans la finale de la conférence Est grâce à leur démonstration devant leur public 116 à 78 face aux Toronto Raptors mercredi. Cleveland mène 3-2 et peut décrocher son billet pour une deuxième finale NBA consécutive en cas de succès vendredi à Toronto lors du match numéro 6.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et la plateforme des mouvements armés pro-gouvernementaux viennent de suspendre leur participation au sous-comité politico-institutionnel chargé de l'application de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour expliquer leur décision, les responsables politiques des deux groupes se sont adressés à la presse à Bamako. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Au sortir de la réunion extraordinaire du sous-comité chargé des questions politico-institutionnelles de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la CMA et la plateforme ont décidé de suspendre temporairement leur participation à ce sous-comité. Maître Aruna Touré, porte-parole de la plateforme.
Je veux dire, on part en négociation avec le gouvernement dans ses bureaux. On arrive à s'entendre après 24 heures de négociation. On paraffe un document à 0h ou à 2h du matin. Le lendemain, on nous dit que ce document est inexistant, que le gouvernement ne tiendra pas compte de ce document. Ça nous a effrayés à l'idée que nous avons des partenaires qui, à l'occasion, ne nous prouvent pas qu'ils ont la capacité de prendre des décisions et de s'en tenir à ces décisions, de les respecter jusqu'au bout.
La plateforme et la CMA estiment que le gouvernement malien ne leur prouve pas sa bonne foi, sa volonté politique d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord. Moulay Ahmed Ouldou Moulay, de la CMA.
Parce que l'aspect politique le plus important qui était dans l'accord, c'est d'abord observer la période intérimaire, mettre les autorités intérimaires sur place. Malheureusement, nous avons tout tenté. Ils nous ont amené un protocole d'entente que nous avons rencontré pratiquement dans la rue. Comme si on pouvait, à chaque fois que besoin est, créer d'autres interlocuteurs par rapport au processus de paix. Alors que c'est très clair que dans l'accord, il n'y a que trois parties. La partie gouvernementale, la CMA et la plateforme. Il n'y a pas une quatrième partie. On ne peut pas créer d'autres parties à l'accord. Il n'y a que la CMA, la plateforme et le gouvernement.
Pour sa part, le secrétaire général d'IGATIA, Fad Ag Al-Mahmoud, a rappelé que cet accord, contrairement aux autres accords passés, a connu beaucoup de retards.
Cette fois-ci, des choses que l'accord a prévues, notamment les autorités intérimaires, le cantonnement, juste après la signature ou à la rigueur, 2 mois après la signature de l'accord, n'ont toujours pas lié.
Tout cela se passe au moment où des militaires français ont procédé à l'arrestation de l'un des chefs militaires de la plateforme à Gao. Pour Maître Aruna Touré, cela ne rend pas le dialogue facile.
On a un problème de confiance. On veut être sûr que les gens avec lesquels nous discutons, avec lesquels nous nous engageons sont des gens capables de prendre des décisions et sont des gens sérieux au travail qui reconnaissent leur signature. Nous sommes des leaders, ok? C'est normal qu'on se protège, qu'on ait nos combattants autour de nous quand on se déplace ou quand on va quelque part, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Mais à Gao, ville, à 2h du matin, en quoi la personne peut constituer un danger jusqu'à ce qu'on aille l'arrêter à son domicile?
Après cette conférence de presse, les deux groupes armés se trouvent actuellement à Alger. Les responsables de la CMA ont déjà été reçus par le ministre algérien des Affaires étrangères, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a livré ce mercredi les résultats des municipales. Le parti au pouvoir, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, se taille la part du lion avec 11 167 sièges contre 3 051 à son plus proche adversaire, l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement. Le CDP, le parti du président déchu, Blaise Compaoré, vient en troisième position avec 2134 sièges. De Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a livré ce mercredi dans la soirée les résultats provisoires des élections municipales de dimanche dernier.
Taux de participation 47,65%, nombre de communes et arrondissements 365. Nombre de sièges attribués, 19 212. Nombre de sièges attribués, 18 955.
Ensuite, les réactions après proclamation des résultats.
Aminata Kassé, directrice du NDI Burkina. Je crois que tous les acteurs vont devoir se poser la question de savoir comment nous sommes passés d'un taux aussi important à la présidentielle à un taux relativement bas. C'est une question qui interpelle tous les acteurs et qui devront travailler à faire en sorte que le citoyen, quelle que soit l'élection, se sente concerné et puisse exprimer son vote.
Bernard Asmane Kabore, je suis militant du MPP. Franchement dit, c'est une joie pour le MPP. On compte beaucoup sur le peuple qui a renoué sa confiance à notre parti et plus précisément au président Roch Kabore pour qu'il puisse vraiment mener à bien le bateau burkinais.
Sana Amadou, secrétaire national à la communication du PDS Medba. Nous sommes satisfaits au vu des résultats que nous avions engrangés. Nous étions candidats seulement sur 25 communes. Bon, bien sûr qu'il y a des communes d'alliance qui nous portent à 28. Et c'est dans 25 communes. Et nous avions engrangé 282 conseillers, ce qui nous place en 7e position.
Ousmane Ouédraogo, secrétaire national adjoint chargé de l'administration de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, coordonnateur national pour les élections municipales de 2016. Nous avons eu 290 sièges de conseillers municipaux pour l'UNIRPS. C'est un chiffre qui est mitigé à notre niveau parce que nous pensions avoir plus. À cette étape, nous ne pouvons pas dire où est-ce que nous sommes élu ou pas.
Bruno Nabaloum, membre du bureau exécutif national de l'Union des révolutionnaires pour le FASO, UREFA. Je ne suis pas heureux tout simplement parce que les résultats sont très, très en deçà de nos attentes. Nous avons été présents dans 7 communes, mais au bout du compte, provisoirement, en tout cas, la CENI dit que nous avons eu 15 sièges. Donc vous comprendrez que ça ne peut pas nous réjouir.
Zoubana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
En Centrafrique, l'ex-coalition Séléka, qui avait renversé François Bozizé en mars 2013, avant de céder le pouvoir à la transition dirigée par Catherine Samba-Panza, est aujourd'hui scindée en plusieurs factions de groupes, dont certains continuent de semer des exactions dans le centre et le nord du pays. Quel regard porte-t-on sur cette ancienne alliance rebelle, 3 ans après? Au micro de Félix Yepassis Zembrou, la réponse de Dieu merci Lazare Njader Kangang, président du collectif 236 km 5.
J'habite Bangui, particulièrement dans la contrée du kilomètre 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de la coalition Séléka que leur division interne? Il y a quelques jours, on entend des informations parties par là, il y a un semblant de coalition et autres. Bon, voilà tout ce qu'on a comme bride d'informations.
Mais alors, peut-on dire que cette ex-coalition représente encore un poids dans le pays?
Pour répondre vraiment à cette question, il faudra avoir peut-être les instruments de mesure, hein, des mesures pour juger de la représentativité d'une entité comme l'ex-coalition Séléka. Je suis très mal placé pour juger de leur représentativité. Mais à partir de la contrée dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire du kilomètre 5, eh ben, pour moi, la Séléka, bon, c'est un mot, c'est un nom, voilà. Mais ça n'empêche pas les Centrafricains de vaquer à leurs occupations. Ça n'empêche pas le kilomètre 5, par exemple, de vaquer à ses occupations et de vivre en paix. Voilà.
Oui, autre chose, Lazare Njader, que signifie pour vous le fait que cette ex-coalition ne soit pas représentée au gouvernement de Sarandji?
Vous savez, il y a eu les élections. Les nouvelles autorités sont en place et il appartient à ces nouvelles autorités-là de pouvoir faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la paix et la paix définitive puissent revenir en Centrafrique. Pour que cette paix revienne, eh ben, il faut discuter avec tous les protagonistes, du moins ceux qui ont des revendications à porter. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas représentés au gouvernement? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas représentés dans le cabinet présidentiel? Vraiment, je suis très mal placé pour, encore une fois, répondre à cette question, parce que je ne suis pas du côté de ceux qui dirigent. Hein, donc, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Ben, nous écoutons comme tout autre à la radio que voilà, ils ont des revendications, ils veulent avoir leur place au gouvernement, ils veulent avoir leur place dans le cabinet présidentiel. Qu'est-ce qui fait que on ne leur répond pas à cette préoccupation, vraiment, je suis très mal placé pour répondre à cette question.
Cette coalition est-elle représentée au sein de la nouvelle Assemblée nationale?
En tant qu'entité ex-Séléka, moi, je n'ai pas entendu des députés élus qui siègent à l'Assemblée. Je n'ai pas entendu dire qu'un député se réclame de l'ex-coalition Séléka. Voilà, quelqu'un ne s'est pas présenté aux élections comme étant candidat de l'ex-coalition Séléka. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas un député à l'Assemblée qui répond de l'ex-coalition Séléka. Voilà ce que je puis vous dire.
Dieu merci, Lazare Ndjader Kangan, président du collectif 236 km 5.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
L'électrification de l'Afrique est au centre des 51e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ouverte à Lusaka, en Zambie. Les discussions sur le thème énergie et changement climatique sont axées sur les moyens d'accélérer les investissements dans le domaine de l'électricité sur les 10 prochaines années, étant donné que 600 millions d'Africains à l'heure actuelle n'y ont pas accès. Pour en parler, Timothée Donangmaï a joint à Bamako l'ingénieur énergéticien Mamadou Kanta de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale.
L'action doit être orientée vers les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, je ne dirais pas d'utiliser des panneaux pour seulement la lumière, mais pour un vrai développement. Parce que quand on parle de l'électricité, nous pouvons le considérer comme l'élément moteur de tout développement. Donc en mettant l'accent sur les photovoltaïques, qui aujourd'hui en tout cas est cher en matière d'approvisionnement, donc on peut également axer en tout cas nos moyens sur tout ce qui est énergie photovoltaïque, en tout cas pour une vraie électrification de l'Afrique.
Quelle est l'incidence du manque d'électricité aujourd'hui sur le développement des pays africains?
L'incidence, c'est pratiquement dans tous les domaines. Le retard de l'Afrique, ça s'explique exactement par son niveau d'électrification. Quand on compare l'Afrique, c'est comme l'équivalent de la capacité de production, en tout cas de toute l'Afrique, ne dépasse pas un pays comme la Belgique. Hein. Les chiffres nous édifient, c'est là. Quand on regarde la capacité totale de l'Afrique, c'est autour de 147 gigas. Et c'est à peu près la même capacité qui se trouve en Belgique. Donc imaginez tout un continent qui, du point de vue électricité, se compare à un petit pays, si je dis petit pays par la taille, la Belgique. Donc voilà, donc c'est vraiment un retard, quoi.
Certains pays africains misent sur le nucléaire, on l'a vu, avec le Soudan, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui ont signé des accords avec la Chine dans ce sens. Est-ce que c'est la voie à suivre pour l'électrification rapide de l'Afrique?
Oui, mais ne voulons pas la face. En réalité, la vraie électrification, au-delà des photovoltaïques, là, on peut faire grande chose, mais pour réellement avoir une grande capacité, il faut tourner vers l'énergie nucléaire. Et je crois qu'en Afrique du Sud, il y a une centrale nucléaire qui permet en tout cas à ces pays de faire de grandes choses. Si peut-être dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, toute la zone de l'Afrique de l'Ouest arrive à avoir une centrale et sur les côtes vers le Sénégal au niveau de la mer, donc ça peut en tout cas servir toute la zone. Et même chose également, comme vous l'avez si bien dit, vers Kenya, Éthiopie, voilà. Donc moi, je pense que c'est vers ça qu'on peut réellement avoir de l'énergie abordable et qui nous permet vraiment de tirer profit. Sinon, installer des petits groupes par-ci, par-là, énergétivores, donc ça n'incite vraiment pas à l'industrialisation, quoi. Ça n'incite pas à l'industrialisation. Le coût d'électricité en Afrique est excessivement cher.
L'ingénieur énergéticien Mamadou Kanta de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale, joint à Bamako.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou de VOA Afrique. Retrouvez-moi la semaine prochaine en direct de Bamako au Mali. Les amis, RM Show sera diffusé en direct. Je serai là en personne avec les amis, les frères et sœurs maliens la semaine prochaine à Bamako. Appelez-nous au 001 202 619 3140 pour participer à l'émission et envoyez-nous vos SMS ou WhatsApp Viber au 001 703 3140. 350 37 31. Nous serons aussi en direct sur notre page Facebook VOA Afrique. RM Show en direct de Bamako, Mali. La semaine prochaine, ça va être chaud. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde en même temps que Jean-Roger Dion. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.